bienvenue sur France Inter, c'est le journal de Charlotte Piré. Bonjour Charlotte.
Bonjour, bonjour à tous. La France suffoque face à la canicule. 66 départements en vigilance orange. Désormais, si vous êtes au travail, sachez que votre employeur a certaines obligations en ces temps de forte chaleur. Si vous prenez la route ou le train, le week-end s'annonce chargé, mais tous les trains circuleront au départ de Montparnasse. Violente répression au Nicaragua, déjà plus de 300 morts parmi les manifestants et même les médecins qui viennent en aide aux opposants blessés sont ciblés. Dans l'actualité également, le Vatican qui lève l'ambiguïté sur la peine de mort, déclarée inadmissible désormais. Près de 300 migrants évacués à Nantes sans solution alternative d'hébergement. Un couloir maritime désormais réservé aux cétacés. Les rencontres photographiques d'Arles avec votre invitée Laetitia.
Oui, Tézir Batniji, photographe aux deux passeports français et palestinien. L'exil est au cœur de son exposition Rencontres d'Arles. Ce sera donc de 8h20 à 8h40. Le standard est ouvert. Vos questions dès à présent au 01 45 24 7000.
Et puis du jazz avec le festival pour cela, Jazz et Marciac, bien sûr.
France Inter.
Difficile, quasi impossible même d'y échapper. La canicule persiste et surtout s'étend à 66 départements placés en alerte par Météo France. Seul le nord-ouest, des Hauts-de-France à la Bretagne, respire encore. Ailleurs, c'est la fournaise, difficile à supporter lorsqu'on est en vacances, d'autant plus lorsqu'on travaille. Mais sachez que le Code du travail prévoit justement des obligations pour les employeurs en cas de forte chaleur. Dans le secteur du BTP, par exemple, il doit fournir 3 litres d'eau par jour et par personne. Les détails avec Maria Melchiordi.
La chaleur, un risque pris très au sérieux par le Code du travail. En cas de forte température, l'employeur a pour obligation de veiller à la sécurité et à la protection de la santé de ses salariés. S'il estime qu'il y a danger, l'employé peut faire valoir ses droits, explique le juriste Philippe Wagner.
S'il devait y avoir un danger grave et imminent pour le salarié peut exercer un droit de retrait, c'est-à-dire qu'il peut décider de ne pas venir travailler, tout simplement.
Concrètement, l'employeur doit mettre à disposition de ses salariés des sources d'eau fraîche et potable, de quoi renouveler l'air dans les bureaux. Voilà pour la loi. Le reste relève du bon sens. Il est conseillé par exemple par l'Institut National de Recherche et de Sécurité d'aménager les horaires de travail des salariés. L'employeur peut aussi autoriser le télétravail, choix fait par Thomas qui travaille dans le marketing pour une start-up.
Il fait quand même très très chaud, on sent que tout le monde est en plus un peu fatigué avec la chaleur, donc l'ambiance peut paraître un peu tendue des fois. Et comparativement à la maison, disons qu'on est beaucoup plus productif tranquillement installé chez soi.
Enfin, si la chaleur pousse le salarié à des tenues plus légères, attention, prévient Philippe Wagner.
On a vu des condamnations par le passé de gens qui étaient en contact avec la clientèle et qui se sont mis en short, et c'était proscrit par le cadre vestimentaire de l'entreprise, et donc ces gens-là ont été licenciés et à juste titre.
Tout dépend donc de votre activité et de la tolérance de votre employeur.
Le droit du travail en ces temps de canicule, c'est aussi à retrouver sur franceinter.fr. Et à ces températures caniculaires, ça ajoute le week-end de chassé-croisé entre juilletistes et haussiens. Sur les routes, cela donne des prévisions rouges selon Bison Futé pour aujourd'hui. Cela vire au noir demain samedi. Et dans les gares, tous les regards se tournent vers Montparnasse où l'incendie d'un poste électrique la semaine dernière a semé la pagaille pendant plusieurs jours. C'est d'ailleurs peu de le dire. Mais c'est désormais le retour à la normale avec 240 000 passagers attendus. Reportage de Laurence Méride.
Les trains, cet été, pour Mathilde, c'est terminé.
Là, je vais passer mon été à Bordeaux. A priori, fini les trains, fini les bus. Bon, après, j'aime bien bouger, donc je vais peut-être revenir sur Paris là pendant l'été. Mais si jamais il y a des problèmes comme ça, je ne pense pas.
Ariel part elle aussi à Bordeaux et revient dès lundi. Elle échappe aux perturbations de la semaine dernière et n'imagine pas une seconde que ça pourrait se reproduire.
Je crains absolument pas qu'il n'y ait pas de train. Ce serait trop s'il y a encore des galères la semaine prochaine. Genre les grèves, c'est parce que les gens ont décidé de faire grève, ça n'a aucun rapport avec le fait qu'il y ait eu un incendie. Donc c'est pour ça, c'est vraiment genre pas de chance que genre ce soit tombé quasiment en même temps. Donc là qu'il y a encore un truc après, ça ferait beaucoup.
Mercredi, la ministre des Transports, Elisabeth Borne, a déclaré que l'incendie révèle une grande fragilité dans l'alimentation électrique de la gare Montparnasse. La SNCF, elle, craint d'autres incidents avant la fin des réparations définitives du poste électrique. Alors en cas de problème, les agents en gilet rouge seront présents en gare tout le week-end afin d'aiguiller les voyageurs.
Pour le couple présidentiel aussi, séjour de départ en vacances, un dernier conseil des ministres et puis cap vers le fort de Brégançon, sa terrasse panoramique, son mobilier Louis XVI. française et sa piscine désormais, voulue par Brigitte et Emmanuel Macron. Pas sûr qu'ils en profitent dès ce soir cependant. Dîner avec la première ministre britannique oblige, Theresa May, qui a écourté ses vacances en Toscane dans l'espoir d'arracher quelques concessions dans les négociations en vue du Brexit. En plus d'être la résidence d'été des présidents, le fort de Brégançon a donc aussi une vocation diplomatique, d'ailleurs instaurée de longue date. Frédéric Seyss.
Des murs épais, perchés à 35 mètres au-dessus de la Méditerranée, cadre idéal pour les discussions bilatérales. Jacques Chirac y a reçu le président algérien Bouteflika, François Mitterrand y a convié Helmut Kohl avec son interprète.
Nous avons donc posé les problèmes de sécurité.
Mais l'autre intérêt de ces réunions estivales, c'est de montrer que le président reste actif, car malheur à celui qui donne l'impression de buller, François Hollande l'avait constaté à son détriment.
Il y a nécessité à un moment de recharger les accus.
Vacancier normal à Brégançon, il a pris le toboggan dans les sondages, moins 15 points en un été. Nicolas Sarkozy, lui, a mis en scène ses vacances sportives, footing matinal et bain de foule.
Excusez ma tenue, merci infiniment.
Plus studieux, Georges Pompidou et ses conférences de presse estivales, la cigarette à la bouche.
Je me félicite tout à fait de la politique de détente qui se matérialise à l'heure actuelle par l'accord entre la République fédérale allemande et la Russie.
Pour Jacques Chirac, la sortie de la messe à Bormes-les-Mimosas vaut un test de popularité.
Bonjour madame, bonjour messieurs.
Quant au général de Gaulle, agacé par les lits trop courts et les moustiques trop nombreux, il n'a passé à Brégançon qu'une seule nuit.
Et en ce début de vacances présidentielles, on tire le bilan de la saison politique d'Emmanuel Macron sur France Inter. Ce sera à partir de 19h20 dans le téléphone sonne.
Un autre bilan, celui de la répression au Nicaragua.
317 morts selon la Commission interaméricaine des droits de l'homme. 3 mois de crise, d'arrestations d'opposants au président Daniel Ortega et d'interventions violentes de la police et des paramilitaires. Des milliers d'habitants ont déjà fui le pays en direction du Costa Rica voisin, car les représailles sont terribles. Les médecins venus pour aider les manifestants victimes des balles de la police sont désormais eux aussi ciblés par les autorités. Le reportage d'Emmanuel Stills.
La police me cherche pour me tuer. La voix d'Eric Murillo, un médecin de la ville de Masaya, traduit l'angoisse et la peur d'être capturé par les forces de Daniel Ortega. Masaya était l'un des hauts lieux de la contestation populaire contre le président et tous ceux qui y ont participé vivent désormais cachés. C'est une véritable chasse aux sorcières, d'après ce médecin.
J'ai participé au secours lors des manifestations, dans les rues et dans les universités. Avec ma brigade médicale, nous avons soigné des blessés et évacué les morts. Et ça, pour la police, c'est du terrorisme. C'est un crime que de s'occuper des blessés. L'État nous persécute pour le simple fait d'avoir secouru la population.
Nous ne sommes pas des terroristes, c'était justement le cri des médecins et infirmiers qui ont protesté jeudi dans la capitale, Managua. Ils dénonçaient des dizaines de licenciements, mais aussi des arrestations et assassinats visant le personnel soignant. De son côté, Daniel Ortega a pour la première fois reconnu lors d'un entretien télévisé un nombre élevé de victimes. 195 morts dans ce qu'il décrit comme des affrontements, sans admettre sa responsabilité dans la répression des manifestations. Mexico, Emmanuel Stills, France Inter.
Après une victoire aussi écrasante que contestée aux législatives, le parti au pouvoir remporte l'élection présidentielle au Zimbabwe, et ce dès le premier tour, puisque l'ancien bras droit de Robert Mugabe a rassemblé 50,8% des voix selon les chiffres officiels. Des chiffres contestés par l'opposition qui a déjà manifesté son mécontentement dans les rues d'Harare. La victoire à la présidentielle d'Emerson Mnangagwa a d'ailleurs été annoncée dans la nuit pour éviter tout débordement, du moins dans l'immédiat. Et puis au Mali, le second tour de l'élection présidentielle opposera bien le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta à son principal rival Soumaïla Cissé. Les deux hommes avaient revendiqué chacun la victoire dès le lendemain du premier tour. Mais les résultats officiels donnent une large avance à l'actuel détenteur du pouvoir. À 73 ans, Ibeka, de son petit nom, a remporté 41% des suffrages selon les chiffres proclamés hier. Quand le Vatican prend position contre la peine de mort, jusqu'à présent tolérée par l'Église catholique, la peine capitale vient d'être déclarée inadmissible par le pape François à Rome, Antoine Gallovaro.
Jusqu'au mois dernier, la peine de mort était vue comme un moyen de légitime défense de la société. Pour l'Église, la pratique était justifiée lorsqu'elle devenait l'unique moyen praticable pour protéger efficacement de l'injuste agresseur la vie d'être humain. Mais le Vatican reconnaissait que les cas d'absolue nécessité de supprimer le coupable étaient assez rares, sinon même pratiquement inexistants. Depuis la publication du catéchisme de l'Église catholique voulu par Jean-Paul II en 1992, l'opposition à la peine de mort n'a cessé de grandir, mais le principe n'avait encore jamais été clairement condamné. C'est un paragraphe de ce catéchisme, le numéro 2267, que le pape François a modifié à partir du 1er août. La peine de mort est désormais pour l'Église catholique une mesure inhumaine qui blesse la dignité personnelle. Comme Benoît XVI avant lui, le pape argentin s'est toujours montré radicalement opposé à la peine capitale. Elle implique pour lui un traitement cruel, inhumain et dégradant. Elle est donc désormais inadmissible car elle porte atteinte à la dignité de la personne et enlève au coupable la possibilité de se repentir. Ainsi, François s'engage en vue de son abolition partout dans le monde. Rome, Antonino Gallo, Faro, France Inter.
1 000 milliards de dollars, telle la valeur en bourse d'Apple, désormais première entreprise privée à passer ce cap. 42 ans après sa création par Steve Wozniak et Steve Jobs, la marque à la pomme atteint donc l'équivalent du PIB de l'Indonésie ou deux fois celui de la Belgique, c'est selon, devant Amazon, Alphabet, maison mère de Google et Microsoft, valant chacune plus de 800 milliards de dollars. L'alerte de hauts responsables américains sur l'espionnage russe, de quoi presque se croire revenu au temps de la guerre froide. Patron des renseignements, du FBI ou encore ministre de la Sécurité intérieure s'inquiète d'une menace réelle, la Russie continuant d'essayer d'affaiblir et de diviser les États-Unis selon eux, alors que se profilent les élections de mi-mandat et que Facebook annonçait en début de semaine dernière avoir détruit une trentaine de pages et comptes soupçonnés de prendre part à une campagne de manipulation politique venue de Russie justement.
8h11, la suite du journal Charlotte Piret avec la crise des migrants à Nantes.
De plus en plus aiguë avec l'évacuation hier de près de 300 personnes qui avaient trouvé refuge dans un ancien lycée et qui sont retournés à leur point de départ, un square du centre-ville. Pas d'autre solution à ce stade alors que les centres d'accueil et d'hébergement sont saturés et que chacun se renvoie la balle. Maxime Baquier.
Hier au petit matin, les CRS sont intervenus sur ordre de la préfète de Loire-Atlantique, Nicole Klein, qui assure qu'elle n'avait pas d'autre choix.
La mairie de Nantes a souhaité demander l'évacuation du lycée. Cette évacuation a été décidée par la justice et je l'ai donc exécutée.
C'est donc la mairie de Nantes qui est à l'origine de cette évacuation pour effectuer des travaux de désamiantage dans ce lycée. Sauf qu'elle ne propose aucune solution de relogement, dénonce François Prochasson du collectif Migrants à Nantes.
On nous a affirmé qu'il fallait que les migrants partent sans dialoguer sur des solutions pour les reloger.
La mairie qui répète qu'elle ne peut pas faire mieux avec 180 places d'hébergement d'urgence ouvertes depuis le mois de mars. Pascal Bolo, premier adjoint à la ville de Nantes.
Malheureusement, on ne peut pas aller plus loin aujourd'hui. La saturation du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile de l'État pose effectivement un problème que la ville de Nantes ne peut pas résoudre.
Ce serait donc au gouvernement de revoir sa politique en matière d'accueil des migrants. Valérie Opelt, députée La République En Marche de Loire-Atlantique, en appelle plutôt à la solidarité de toute la métropole nantaise. Dans un communiqué publié hier, elle demande à toutes les communes d'ouvrir les locaux vacants pour accueillir un maximum de personnes. En attendant, 10 jours après une première évacuation, le square d'Avier est redevenu hier le lieu de rassemblement de plusieurs centaines de migrants.
C'est un large couloir en pleine mer, une bande préservée pour les cétacés. Cette zone au large des Baléares vient d'être déclarée aire maritime protégée afin de permettre aux rorquals, plus gros mammifères marins derrière la baleine bleue et autres cétacés, de migrer vers la France en toute tranquillité. Sophie Bécherel.
Cela faisait longtemps que les associations et les chercheurs militaient pour la protection de ce corridor maritime, parmi eux le GIS-3M où Hélène Labac est coordinatrice et chargée de projet.
C'est une zone qui a été reconnue comme étant très importante pour les cétacés, parce que c'est une zone qui est très riche donc en production primaire et qui est une zone aussi de passage, de migration pour le rorqual commun vers ces zones en fait d'alimentation et de reproduction. Mais c'est également une zone qui est importante pour d'autres espèces, notamment le cachalot, le globicéphale noir, la baleine à bec de cuvier, dauphin brisseau, grand dauphin et dauphin bleu et blanc.
Au total, près de 50 000 km² sont concernés. Concrètement, cette décision va entraîner de nouvelles règles pour encadrer les activités humaines. D'ici 4 ans maximum, la prospection ou l'exploitation pétrolière et gazière seront réglementées. Le bruit qu'elles génèrent sous l'eau impacte les cétacés, parfois jusqu'à entraîner leur mort.
Ça concerne toute la Méditerranée dans le sens où les cétacés sont des espèces qui se déplacent. Et donc les mesures mises en œuvre localement dans les zones nationales espagnoles vont bénéficier à toute la population plus largement au niveau de l'écosystème méditerranéen.
Avec ce nouveau corridor maritime préservé, la Méditerranée s'approche de l'objectif fixé par l'ONU. En 2020, il est prévu que 10% des océans dans le monde soient sous aire protégée.
Les championnats d'Europe de natation débutent aujourd'hui à Glasgow. Côté chance de médaille, la France compte sur Charlotte Bonnet sur 200 mètres notamment, où elle détient le record européen. Mais aussi Marie Vatel en 100 mètres papillon ou encore Mehdi Metteller. Du jazz, oui, mais pas n'importe où. Sur la place d'un village du Gers, 1300 habitants, mais 240 000 festivaliers chaque été. J'ai nommé Marciac, bien sûr, où le festival bat son plein, Frédéric Bourgade.
En 41 ans, Marciac est devenue une des mecs du jazz. L'été, 245 000 personnes y viennent pour la verdure, pour la musique, comme Daniel, depuis 15 ans déjà.
Moi, je suis un fan de Cash Jarrett, de Count Basie, Duke Ellington. J'ai vu Oscar Peterson, c'était mon premier concert. Et hier soir, je me suis couché à 5h du matin avec des jeunes là-bas. On a fait la fête, mais on a discuté. C'est vraiment très sympathique.
Dans la vie, il est ouvrier. Ici, le jazz n'est pas guindé. On dort d'ailleurs sous la tente en camping-car. Un vrai projet de pays. Jean-Louis Guillaumont, fondateur de Jazz in Marciac.
La culture a sauvé Marciac, d'abord lui a permis de conserver un collège, d'avoir un ensemble d'équipements et d'infrastructures largement surdimensionnés par rapport à sa population réelle. Jazz in Marciac, c'est plus de 1000 bénévoles.
Marcus Miller, Ibrahim Malouf, Marsalis, etc. L'affiche est constellée d'étoiles. Et les bénévoles, volontaires. Illustration.
On est les Brigades Vertes et on nettoie la scène principale et on sensibilise à l'écologie, au développement durable.
On voit les concerts déjà gratuitement, on est logés, nourris, donc je ne vois pas pourquoi on essaie de gagner de l'argent en plus.
Le moteur, c'est en effet le bonheur collectif, la découverte. Sur la scène, également, les talents en herbe. Là, c'est Mama Shaker. Deux spectacles de John Baez et Santana concluront l'été à Marciac.
Jazz in Marciac, c'est jusqu'au 15 août. Et puis une bonne nouvelle pour les touristes ou amateurs de Paris vu de haut. La Tour Eiffel rouvre ses portes, ses escaliers, ses ascenseurs. Ce matin, elle était fermée depuis mercredi pour cause de grève de ses salariés qui protestaient contre une réforme de la vente des billets.
Merci Charlotte Piret. Et allez vous reposer. Pour vous, c'est week-end, ma belle. Merci. La météo, Stéphanie Fromentin. Oui. Alors, on parlait de la Dame de Fer. Vous parlez de bras de fer qui se jouent dans le ciel.
Oui, entre les rayons d'un soleil très jupitérien et des nuages qui aimeraient bien s'installer en vacances. C'est très clairement le soleil qui tient la main et qui règne pour la journée sur tout le territoire. Une petite partie résiste tout de même à cet envahissant envahisseur. Quelques brumes côtières qui apparaissent, devinez où, au lever du jour ? Sur la pointe du Finistère. Dans l'après-midi, le ciel tape du poing sur les nuages qui s'étalent à l'est du Rhône, lâchant quelques averses orageuses sur les Alpes et plus au sud jusqu'au littoral de la Côte d'Azur, ainsi que sur le relief corse. Secoué, quelques averses pourront déborder sur le sud du Massif central et localement vers la frontière suisse.
Et ces coups de boutoir solaires excitent Mercure,
disons. Oui, il s'est même complètement emballé. Il a entamé une partie de canicule, poussant les valeurs très largement au-dessus des normales de saison. Météo France a été obligé de déclencher la vigilance orange canicule pour 66 départements touchés par des températures nocturnes qui varient entre 22 et 25 degrés, voire plus, et des températures diurnes qui peuvent grimper jusqu'à 38 sur la moitié sud, voire 40 dans la basse vallée du Rhône. Vous devrez lutter contre 29 à 35 degrés en général, 29 à Biarritz, 35 à Manosque. Cette chaleur est mieux contenue en Bretagne, Normandie, Hauts-de-France et près des Pyrénées avec 30 à 33 degrés. Et ce sont les côtes bretonnes et de Manche qui résistent et qui gagnent le mieux avec 25 à 28 au maximum.